BFM Business présente la grande interview.
19h34, la grande interview, c'est donc Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Laborde.
Bonsoir à tous les deux.
Merci
Bonsoir.
Beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. BNP Paribas qui a donc présenté ce matin ses résultats trimestriels. Alors bénéfice net, on regarde les chiffres, hein, 4,4.
Plutôt positif.
Oui. Un peu plus de 4,4 milliards d'euros contre 1,8 l'an dernier. Bon, c'est dopé par la cession de votre filiale américaine Bank of the West qui rapporte quasiment 3 milliards d'euros. Si je fais le calcul sans cette cession, on serait un petit peu en dessous, Thierry Laborde. Après, on voit des bons chiffres, les revenus en hausse de 1,4%. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que l'année 2023 sera bonne, mais peut-être un petit peu moins glorieuse que 2022. C'est un certain retour au calme qui se précise, finalement.
En tout cas, sur ce premier trimestre, nous sommes sur la bonne trajectoire, puisqu'il y a des éléments exceptionnels, extraordinaires même, plus qu'exceptionnels, donc il faut les retraiter. Il faut retraiter la plus-value de Bank of the West, qui était connue, hein, les 2,9 milliards que vous venez de citer. Il faut retraiter aussi quelques éléments de changement de normes comptables, qui ont leur importance dans la vision qu'on donne à la banque, en particulier sur son métier assurance, et retraiter aussi un impact lié au changement de règles de la BCE en matière de TLTRO qui coûte ce trimestre. Donc quand on retraite tout ça, on a le groupe dans sa nouvelle configuration, sans Bank of the West. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des revenus qui progressent de 5,3%, des coûts qui progressent de 3,8% et un résultat de l'ordre de 2,850 milliards. C'est ça la vraie vision sur le premier trimestre du groupe, donc vraiment bien orienté dans le cadre du plan qui est le nôtre et des objectifs que nous avions annoncés en début d'année.
Mais ce qui est intéressant, quand on lit l'ensemble des communiqués de BNP Paribas, on voit bien que le mot d'ordre, c'est solidité. On voit le mot solidité un peu partout. Est-ce que vous faites l'apologie finalement du modèle bancaire universel? Et est-ce que vous dites que la recette du succès, c'est toujours plus de diversité en termes d'activité?
Vous avez raison, le modèle, c'est la diversification. C'est la diversification des géographies, présent sur les trois grandes zones, hein, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud aussi un peu, mais l'Amérique du Nord surtout. C'est ensuite les segments de clientèle et c'est ensuite les métiers. Et cette diversification, elle est clé, par exemple, sur les sujets de liquidité, qui est un des thèmes centrales par rapport à ce qui a pu se passer en Amérique du Nord sur les banques régionales.
Oui, revenir,
c'est quelque chose de très localisé, qui n'est pas du tout systémique, mais on a des modèles qui n'étaient pas diversifiés, qui étaient souvent sur les mêmes segments de clients. C'est vrai des start-up pour SVB, c'est vrai de la gestion de fortune pour First Republic, et c'est vrai aussi pour Signature sur l'Est des États-Unis. Donc nous, là, c'est l'inverse. On est vraiment très diversifié, tout segment de clientèle, tout marché, toute géographie, et sur, encore une fois, des activités
très diverses. Mais alors, il y a aussi des grands géants américains qui, eux, se portent très bien, qui ne sont pas aussi diversifiés que vous ne l'êtes.
Parce que la réglementation aux États-Unis est peut-être un petit peu différente de celle qu'on connaît en Europe. Nous avons par nature ce modèle très diversifié sur à la fois la banque, mais aussi des services en dehors de la banque. On voit par exemple ce trimestre, comme l'année dernière, que notre activité de location de véhicules, de location de flotte, et qui est clé, on en parlait à l'instant avec votre invité précédent que j'écoutais, sur tout ce qui est transition énergétique, le passage du véhicule thermique au véhicule électrique. Quand vous gérez 1,6 million véhicules, que vous êtes propriétaire de ces véhicules, vous avez une vraie responsabilité dans cette transition énergétique. Ça, c'est un des éléments de diversification du modèle de BNP Paribas.
Ce modèle, effectivement, de banque universelle, banque diversifiée, alors voilà, ça devrait être une garantie dans la période actuelle. Or, on le voit, mais c'est pas propre à BNP Paribas. Votre cours de bourse n'a pas, lui non plus, retrouvé son niveau d'avant-crise, finalement. Qu'est-ce que ça raconte, le fait qu'aujourd'hui, bah, on a encore du mal, du côté des banques, à séduire les marchés?
Alors nous, on est une banque à sous-jacent très européen.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a un ralentissement en Europe. On l'a vu sur les chiffres du premier trimestre, zéro un tout petit peu plus. On ne croit pas à un scénario récessif, mais quand même un ralentissement. Les investisseurs, quand il s'agit d'investir dans un établissement bancaire, ils regardent également l'environnement macroéconomique dans lequel cet établissement agit.
Vous êtes valorisé 70% de l'actif net, grosso modo.
0,70.
Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça.
La valeur de l'action, si on prend 100% de la valeur tangible, c'est en gros 84 euros. Quand vous regardez les notes d'analyse qui sont sorties aujourd'hui, elles nous mettent tous sur des trajectoires très, très haussières. Alors après, il faut que l'investisseur fasse le choix de venir sur des sous-jacents européens, sur des sous-jacents bancaires, dans une période où où il y a un peu de volatilité. Mmh. En plus, aujourd'hui, il n'y avait pas de marché. En tout cas, le marché était très,
faible
très peu profond en activité.
Mais si on regarde un peu plus près vos marges, et pour être très honnête, on peut aussi dire qu'elles sont gonflées en partie grâce à la hausse des taux d'intérêt en zone euro.
C'est pas totalement vrai partout, Audrey. C'est beaucoup plus vrai au Luxembourg, en Belgique, où on a un peu plus de taux variables.
Ouais.
En France, pas du tout. Et c'est d'ailleurs une protection pour le client français. C'est une protection l'inflation.
Mais c'est un handicap pour vous.
C'est un handicap un peu pour nous, sachant que là-dessus, on est peut-être moins gros que d'autres, donc un peu moins touchés. Mais c'est important, c'est que nos téléspectateurs, vos téléspectateurs comprennent bien que le marché français qui prête très long et à taux fixe, en période inflationniste, c'est une super opportunité. Et d'ailleurs, quand les taux rebaissent, qu'est-ce que font les clients? Ils renégocient leurs taux pour profiter de la baisse des taux. Ça, c'est une grosse protection contre l'inflation pour les emprunteurs français.
On va en parler immobilier, parce qu'effectivement, il y a un gros sujet. Juste, effectivement, d'un côté, vous nous dites que vous ne bénéficiez pas encore véritablement de la remontée des taux en zone euro. De l'autre, l'autre conséquence de cette remontée des taux, c'est le taux du livret qui est revalorisé et tout ça mis bout
à bout. On en bénéficie, un peu moins vite dans certaines géographies que dans d'autres, c'est ça mon sujet. Mais quand on voit l'évolution de nos marges d'intérêt sur les banques commerciales, on s'enroule autour d'un plus 6%, donc ça reste quand même assez significatif.
Mais alors, puisqu'on parle d'immobilier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que face justement à la remontée des taux qui ne s'arrêtent plus, est-ce qu'il faut de nouveau assouplir ou non les critères pour emprunter, que ce soit sur la durée d'emprunt, sur les mensualités, parce que on a quand même la Banque de France qui continue de s'y opposer.
Alors, je vais répondre à ce point, mais le point essentiel n'est pas celui-là. Le point essentiel, c'est qu'il faut que les prix s'ajustent.
Ouais.
Quand les taux baissent, les prix ont monté. Et l'argent liquide, très disponible, facile, à des taux d'emprunt très longs, très bas, ça a fait monter les prix. Quand on a un cycle inverse de remontée brutale des taux, il faut que les prix de l'immobilier s'ajustent à la baisse. Il y a un début de mouvement, mais il reste marginal. Sur période longue, si les taux restaient hauts longtemps, il faudrait que les prix s'ajustent à la baisse. Ensuite, pour répondre à votre question, il peut y avoir une demande de souplesse des établissements bancaires un peu plus grande, en particulier pour financer l'investissement locatif.
Aujourd'hui, c'est
un petit peu contraint aujourd'hui sur l'investissement locatif.
Aujourd'hui,
mais ça reste à la marge.
Aujourd'hui, c'est endettement plafonné à 35% et c'est sur 25 ans ou plus.
C'est
25 ans, effectivement, pour l'investissement
locatif. Et avec une possibilité d'y déroger à hauteur de 20%, dont 20% sur ce qui n'est pas l'acquisition de résidence principale. Donc ça fait 4%. C'est pas beaucoup sur l'investissement.
Enfin, on a quand même une production de crédit qui est au plus bas, c'est un plus bas historique depuis 2015, avec un encours des crédits à l'habitat qui a baissé de moitié depuis l'été dernier. C'est énorme.
L'encours n'a pas baissé, c'est la production qui baisse. L'encours continue à monter sur le crédit immobilier.
Alors la production des crédits immobiliers.
La production, parce qu'il y a un effet stock qui a un peu de latence. Donc ce qui est important sur ce sujet-là, il faut aussi que les emprunteurs réajustent leur budget, puisque un taux à 3% n'est pas un taux à 0,50. Et il faut aussi que les prêteurs, et c'est d'ailleurs le souci qu'a la Banque de France, veillent à éviter des solutions de surendettement ou des situations de surendettement face à des taux qui montent.
Juste pas,
surtout si les prix ne s'ajustent pas.
Concrètement, quelle est la position des banques? Parce qu'on entend dire et on lit que dans le contexte actuel, ce sont surtout les courtiers, alors qu'ils sont dans leur rôle, effectivement, un petit peu en rôle de disrupteur, qui montent au créneau sur ce sujet pour obtenir un assouplissement des règles d'emprunt. Et que les banques soient un petit peu en deuxième ligne en attendant de voir comment ça se passe. Quelle est la position des banques véritablement sur ce sujet?
La position des banques est de gérer l'équilibre, de ne pas surendetter les clients. Ça, c'est très important. Et les critères du HCSF sont faits pour ça. 35% de reste à vivre. Si vous êtes, à 37, 38, 39% avec des taux plus hauts, c'est différent que des taux plus bas. Donc il faut faire attention.
Ce qu'on a connu jusqu'à une époque pas si éloignée.
C'est vrai, mais il faut faire attention aussi à ces sujets. Il y a une époque pas si lointaine où dans les dossiers de surendettement, qui heureusement, et c'est une bonne nouvelle, sont bas aujourd'hui, on voyait poindre, on voyait monter beaucoup de dossiers d'emprunteurs immobiliers. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Pour vrai, je pense que le marché va prendre un peu de temps pour s'adapter, comme toujours. Moi, je vois le marché s'adapter plutôt en fin d'année 2023, plutôt qu'à la rentrée prochaine.
Mais Thierry Laborde, est-ce que finalement, on n'est pas en train de passer d'une époque où les taux étaient faibles, et donc, évidemment, où il fallait faire une politique de volume sur les prêts immobiliers, à une période où les taux remontent, et donc, par conséquent, il faut faire ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire mieux cibler à qui l'on prête pour minimiser les risques?
Sans doute, on revient dans les conditions de marché un peu plus normales que les taux de référence négatifs qu'on a connus.
En fait, ça a régulé le marché.
Oui, exactement. C'est des choses qu'on a connues avant les années 2015. Le marché, on empruntait à 3, 3,5, 4. Ouais. Et vous voyez, en Belgique aujourd'hui, on emprunte à taux fixe à 100 points de base de plus qu'en France.
Il n'est pas quand même l'idée, encore une fois, pour appuyer la question d'Audrey, qu'on les banques veulent un peu mieux cibler à qui elles prêtent.
Je dirais
dit comme ça, c'est pas très conventionnel de dire comme ça. Mais
les banques sont vigilantes à ne pas prêter à des clients que ça mettrait en difficulté. Donc ça, il faut y être toujours attentif. Hein. La notion de surendettement, c'est une notion qui sont bien encadrées en France.
Justement, puisque vous parlez de surendettement, la Banque de France nous dit quand même on a plus 6% de dossiers ouverts sur un an là au premier trimestre de surendettement. Vous voyez que les choses, vous sentez que les choses changent un petit peu de
ce point de vue-là ? Non, c'est très à la marge. Et le 6% se réfère à une base très très basse. Si on se réfère à des années 18-19, c'est toujours très très bas au niveau de dossiers de surendettement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça, c'est comme l'inflation. Hein. Le surendettement, quand il est parti, c'est difficile de le réguler. Donc c'est très bien d'avoir des mesures qui soient saines pour les emprunteurs.
Et sur les prêts aux entreprises, est-ce que vous voyez aujourd'hui le spectre d'une remontée éventuelle en flèche des défaillances d'entreprises pour cette année ?
Non. Non, on ne le voit pas sur nos clients. Hein. On le voit un peu sur le marché, sur des clients peut-être plus petits, mais ça reste bien mesuré. Et on voit peut-être un retour à des situations en matière de défaillance d'entreprise d'avant Covid, plutôt aux environs de 2019, et on n'est pas tout à fait encore revenu à ces niveaux. Mais la normalité, c'est de revenir à ces niveaux, parce qu'il faut que l'économie se régénère. On ne peut pas soutenir des entreprises qui n'ont pas de viabilité trop longtemps.
Donc vous dites, on va en fait ne faire que revenir au niveau d'avant-crise, mais rien de plus significatif aujourd'hui.
Et vous le disiez tout à l'heure, l'emploi tient très bien.
Oui, oui.
Et la première préoccupation de beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, c'est trouver la main-d'œuvre qui leur manque. Ça reste cela. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'emploi tienne bien en Europe et en particulier en France.
Tout ça, ça nous dit quoi sur le visage de l'économie française pour les prochains mois, finalement, Thierry Laborde, fondamentalement?
Ça nous donne beaucoup d'attentisme, un peu plus d'attentisme chez les consommateurs, parce que l'inflation est là, elle est là pour un moment. Je pense qu'elle va baisser, mais pas tout de suite. Elle est plutôt sur un plateau. On voit quelques signaux favorables sur l'inflation sous-jacente, mais c'est plutôt stable, hein, plutôt qu'un mouvement réellement baissier. On va voir ce que la Banque centrale va décider demain sur l'augmentation de ses taux. La question, c'est 0,25 ou 0,50. On verra la décision qui sera prise. Je pense que l'objectif reste quand même de faire baisser cette inflation, et c'est bien dans la durée.
Quoi que ça induise sur l'économie et sur la santé de l'économie, pour vous, c'est le débat.
Bien sûr, ça c'est sur la consommation, mais aussi sur la capacité des entreprises à emprunter. Et là, on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui regardent, qui attendent peut-être un petit peu, mais qui ont toujours de très beaux projets à financer, et on sera là pour les financer. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la plus-value de notre cession aux États-Unis, on ne va pas la distribuer.
Oui.
Tout le capital qu'on retire de cette cession, on va le redéployer pour financer nos clients, pour financer l'économie, et en particulier tous les sujets de transition.
Encore une question très rapidement sur les entreprises. Est-ce qu'il y a un sujet encore avec le remboursement du PGE aujourd'hui ?
Nous, on a pu rembourser plus de la moitié de nos encours.
Voilà. Voilà pour la question.
Eh bien, j'allais poser la même, Guillaume. comment est-ce que vous regardez ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, évidemment, sur l'ensemble de ces banques régionales qui ont fait faillite, SVB, First Republic, et puis bien sûr le sauvetage de Crédit Suisse par UBS. Il y a eu quand même beaucoup de commentaires depuis ce matin, notamment sur le fait que vous n'y faisiez pas référence dans votre communiqué. On s'en est un peu étonnés nous-mêmes.
Parce qu'il n'y a rien de systémique, hein. Ce sont des mouvements très explicables, d'ailleurs très expliqués, pour la plupart d'entre eux réglés, et réglés dans des délais très rapides. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis encore le week-end dernier avec First Republic. On a vu en Suisse aussi un règlement rapide. Et je pense que ces opérations vont se faire dans le meilleur intérêt des uns et des autres et des clients de ces établissements. Donc ce qu'on voit, c'est des résolutions très rapides sur des sujets qui sont très localisés. Il n'y a rien de systémique.
Alors,
il y a quelques zones orageuses.
Développez peut-être un petit peu quand vous dites rien de systémique. Pourquoi rien de systémique pour
Pourquoi
vous,
Parce que ce sont des cas bien particuliers. Je le disais tout à l'heure, on est face à des banques en Amérique du Nord, très peu diversifiées, ciblant les mêmes clients. Si vous avez à un moment, aujourd'hui avec le digital, on peut retirer ses fonds très rapidement. Si vous avez un même mouvement sur une banque très peu diversifiée, ça crée ces mouvements de bank run tels qu'on les a connus. Et on voit bien qu'il y a toujours un acteur qui est un acteur qui consolide et qui va intervenir pour régler le sujet. Quelque part en Suisse, c'est le même sujet qui s'est passé. On avait un sujet qui était connu de longue date et qui a été réglé entre intervenants suisses.
Mais est-ce que vous dites quand même qu'on est beaucoup plus mieux protégé, en tout cas en Europe, de ces risques-là, puisque on n'a pas, en l'occurrence, détricoté tout ce qui avait été mis en place en termes de régulation après la crise de 2008-2009, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque Trump est revenu sur tous ses engagements.
Sur ces banques régionales, il y avait une une supervision un peu plus lâche, hein, parce que ces sujets auraient pu être vus. Hein.
Ouais.
En Europe, c'est très différent. Il y a deux choses qui sont différentes. D'abord, tous les acteurs européens sont diversifiés, avec des axes stratégiques qui peuvent être différents. Mais on trouve cette diversification, ça c'est très important. Et deuxièmement, la supervision européenne est très stricte, et c'est bien qu'elle soit stricte, ça crée la confiance. Et on le voit bien dans les ratios qui sont les nôtres, en solvabilité ou en liquidité.
Ça crée la confiance, mais vous avez vu, comme nous, vous en avez même été victime, les bourrasques qu'ont essuyé le secteur bancaire en bourse ces dernières semaines. Comment est-ce que vous avez regardé tout ça, vous, finalement
Nous, ce qui était important, c'est de regarder notre bilan, c'est de surveiller les comportements des clients.
Les marchés n'ont pas regardé les bilans au fond.
Oui, mais aujourd'hui, ils regardent, Guillaume, ils regardent bien le ratio de liquidité, c'est le ratio court à 30 jours, là, le LCR. Il est quand même passé de 129% à 139% entre fin décembre 22 et le 31 mars 23. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la période, on a eu un petit mouvement de fly to quality vers BNP Paribas de dépôt de clients.
Vous ne dites pas quand même, en regardant ce qui s'est passé, des journées absolument atroces pour le secteur bancaire, pour bien des secteurs, il y a dans l'esprit des marchés toujours la crainte d'une réminiscence de ce qu'on a connu pendant la crise de la zone euro, de la dette, il y a une dizaine d'années finalement. Tout ça semble encore un petit peu ancré dans les esprits.
Les marchés testent les plus faibles comme toujours, et voir s'il y a une réaction quand on teste les plus faibles. Voilà, nous on est très solides, on est très profitables aussi, je crois que ça a été salué par tous les gens qui nous connaissent, qui nous regardent. C'est la synthèse des notes d'analyse que j'ai pu lire aujourd'hui, qui sont sorties après l'annonce de ces résultats, et ça c'est très important. Cette solidité, cette profitabilité, et puis de répondre à l'engagement qu'est le nôtre. On est sur des engagements de moyen et de long terme. Nous, on cherche des investisseurs longs.
Alors justement, vers quoi se tournent les investisseurs que vous financez aujourd'hui ? Les investissements ?
Ah, les investissements, nous, c'est assez simple. On finance tout projet de transition, de développement d'une entreprise, de relocalisation, de réindustrialisation, et beaucoup, c'est sujet de transition. Vous savez qu'on a pris des engagements en janvier, dont on va prochainement, la semaine prochaine, détailler les modalités d'exécution. Et vous verrez que ces modalités d'exécution sur tout ce qui est transition de l'upstream oil et gaz, pétrole et gaz vers les énergies bas carbone sont très ambitieuses, très exigeantes, qu'elles seront tenues, comme tous les engagements que nous prenons. Et ça nous placera au meilleur rang de toutes les banques mondiales.
Justement, Thierry Laborde, évidemment, on a parlé tout à l'heure de Total Energy qui a signé Greenpeace en justice. Je suis obligée de vous poser la question, puisque vous avez été aussi attaqué par plusieurs ONG qui disent que vous êtes la banque française qui finance le plus les énergies fossiles. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
On leur répond que déjà aujourd'hui, notre mix énergétique, il est à majorité énergie bas carbone, et que cette transition, elle sera faite en 2030 à hauteur de 80% d'énergie bas carbone et de moins de 20% d'énergie carbonée. Ce qui compte, c'est de convaincre. Alors, on n'a pas encore convaincu tout le monde. À nous de convaincre tous ceux qui nous observent sur ces modalités d'exécution de cette transition qui seront présentées la semaine prochaine. Ce qui est vraiment important, c'est deux modèles. Nous, on est pour la transition. On pense qu'on ne peut pas éteindre du jour au lendemain les énergies carbonées, encore besoin aujourd'hui, mais on est sur une transition ambitieuse et résolue avec des modalités d'exécution convaincantes.
Attendez, pardon, parce que quid des fonds d'investissement de BNP Paribas étiquetés durables qui, au final, investissaient dans les énergies fossiles ? Est-ce que ça, vous allez complètement vous en émanciper ?
Il y avait une petite... un petit point technique qui était sur des couvertures où dans l'indice de couverture, vous pouviez trouver un tout petit bout d'une société étant dans l'énergie fossile.
Oui, mais c'est dommage quand on étiquette un fonds complètement durable.
Je crois que ce travail a été fait aujourd'hui. Ouais. Ce travail a été fait, comme chez beaucoup d'asset managers, pour que les fonds dits article 9, qui sont étiquetés comme des fonds verts, soient totalement verts. Ça, ce travail a été fait à partir du 1er janvier, à partir de la fin de l'année dernière.
Quand vous dites on ne peut pas éteindre les énergies fossiles du jour au lendemain, c'est aussi parce que c'est difficile de se marcher à terme du marché américain. C'est aussi ça le problème aujourd'hui pour les établissements.
Ah non, c'est vraiment pas ça le sujet.
C'est
vous voyez.
Partie de l'équation, M. Laborde, quand même.
Oui, mais regardez, on est sorti, je crois que ça devait être en 2017, de tout ce qui était les énergies alternatives fossiles, gaz de schiste, etc. On est sorti du jour au lendemain, on avait 4 milliards d'expositions, on a zéro aujourd'hui. On n'a plus aucune exposition. On avait une équipe à Houston. Cette activité, nous l'avons arrêtée, puis cédée. Alors, il y a toujours eu quelqu'un pour la reprendre. Mais nous l'avons arrêtée. C'est une décision qui a été prise de mémoire en 2017.
Il nous reste deux grosses minutes, Thierry Laborde. Donc, on le rappelle, vous êtes la première banque européenne. Vous allez forcément avoir un rôle important, j'imagine, à jouer dans le financement du nucléaire.
Toutes les énergies qui font partie de la taxonomie européenne, nous les accompagnons, puisque ça fait partie, le politique... a décidé qu'il faisait partie, que ces énergies, oui. que ces secteurs faisaient partie de la taxonomie européenne. Notre rôle, c'est bien sûr de les accompagner à partir du moment où elles font partie de cette taxonomie et aussi d'accompagner la transition de ceux qui quittent un secteur pour aller vers un autre.
Et alors juste concrètement, quand vous investissez massivement pour décarboner l'économie, est-ce qu'il y a un possible risque, et on se parle franchement, de perdre certains clients industriels en suivant cette stratégie?
Oui, bien sûr. Mais je vous le disais tout à l'heure, sur l'exemple américain, c'est des clients, nous avons arrêté de traiter avec ces clients. Donc bien sûr, il y aura des allocations de capital différentes, où des clients seront progressivement, si encore une fois leur trajectoire ne nous convainc pas, nous allons passer plutôt de certains clients à d'autres. Cette allocation est très importante puisque les besoins de la transition, les besoins à financer sont considérables.
Et ben voilà pour les défis de BNP Paribas. Alors 10,2 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, c'est bien ça, record. On va le faire mieux cette année, Thierry Laborde.
Bah, en gros, c'est dans les annonces. Hein. C'est dans les annonces. Si vous calculez, c'est 10% de mieux. En gros, ça devrait faire ça. Oui.
Donc, on est parti pour une nouvelle année record, sauf événement exceptionnel chez BNP.
Après, il faut délivrer. Hein.
Il faut délivrer
un premier trimestre qui est dans la trajectoire.
Eh bien, vous reviendrez pour le deuxième.
Trois fois.
Eh bien, le premier trimestre délivre en tout cas. Merci beaucoup, Thierry Laborde. Merci de passer nous voir ce soir, le directeur général délégué de BNP Paribas.